Donc je le redis, la notion d'alliance au sens biblique est inconnue du Coran. Le Coran ne dit pas qu'il deviendra le père d'une multitude et qu'il entrera en possession de la terre promise, c'est-à-dire la terre de Canaan. Et cette alliance, nous savons qu'elle est dans la Bible, symbolisée par la circoncision. Alors justement, l'islam a repris la pratique de la circoncision des nouveau-nés garçons. Mais, alors il a repris du judaïsme cette tradition, mais sans lui donner le moindre sens. On circoncit les garçons, mais ça n'a pas de signification. L'islam n'a pas creusé ou approfondi la question. Vous voyez, au sujet de Moïse aussi, au sujet de l'Alliance, excusez-moi, au sujet de l'Alliance, il y a une très belle phrase du prophète Jérémie où Dieu dit: ils seront mon peuple et moi je serai leur Dieu. Ça exprime magnifiquement la notion d'alliance. Ils seront mon peuple et moi je serai leur Dieu. Ça n'existe pas dans le Coran. Pour nous chrétiens, c'est Jésus-Christ qui est la nouvelle et définitive alliance. Une alliance d'amour par le sacrifice de la croix, puis par l'Eucharistie. Et une alliance offerte à tous les hommes de tous les temps. Ce pacte primordial, ce mitak dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est en fait, on peut le considérer comme un pacte de souverain, de suzerain qui est Dieu, à vassal qui est l'homme. L'homme est le vassal du Dieu qui est le suzerain. Ça n'a rien à voir avec une égalité, si vous voulez. Alors, je vais conclure cette partie. L'islam emprunte à la Bible, nous l'avons vu, mais il est impossible à un chrétien d'affirmer que cette religion s'inscrit dans la révélation biblique. L'islam n'est pas une religion biblique. L'islam n'est pas apparenté au judaïsme et au christianisme. Il a emprunté au judaïsme, c'est vrai, on aura l'occasion de le voir par rapport au culte notamment. Il a complètement défiguré le message chrétien. Mais il n'est pas donc une religion biblique. Alors, je vous l'ai déjà dit, je crois, cette attitude, elle freine toute curiosité naturelle chez les musulmans qui ne sont pas spontanément attirés par la lecture de la Bible, puisque d'emblée, le Coran leur dit que ce livre est falsifié. Alors que nous, dans le christianisme, en principe, on a une ouverture intellectuelle qui nous invite, qui nous incite à aller voir les doctrines des autres. C'est valable pour l'islam, mais aussi pour toute autre tradition, tout autre sujet. Donc, il y a une curiosité naturelle. Nous aimons savoir et comprendre ce que pensent et croient les autres. Heureusement, tout de même, il faut tempérer un peu ce que je dis, c'est que depuis quelques années, Du fait que des savants musulmans rencontrent de plus en plus des savants chrétiens, certains d'entre eux ont l'honnêteté, parmi les musulmans, ont l'honnêteté, quand ils écrivent sur le christianisme, de faire référence aux sources chrétiennes, ce qu'ils ne faisaient pas avant. Donc là, il y a un progrès, vous voyez, dû au contact entre chrétiens et musulmans. C'est pourquoi il est très important, lorsque nous dialoguons avec des musulmans, de leur montrer que nous ne sommes pas, nous ne nous reconnaissons pas dans l'enseignement coranique concernant le christianisme. Vous voyez, si on peut, c'est bien. Si on, c'est pas toujours possible, c'est même assez difficile. Mais enfin, voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Oui.
Il y a plusieurs fois que vous avez cité un verset où Dieu parle au pluriel.
Ah oui. J'attendais cette question. Merci. Alors, ça n'a rien à voir avec la Trinité. C'est un nous de majesté, simplement. Oui.
On se posait la question ce matin, par vos livres, l'islam a rarement dit que la religion dit qu'il faut que ce soit une religion universelle, donc qui rejoigne tout le monde.
Oui.
Le problème, c'est que c'est un péché impardonnable, selon eux, de d'être
associationniste, oui. Associationniste, oui.
Et donc comment on pourrait convertir à l'islam alors que on a été chrétien avant? Si on a été chrétien avant, on a été associationniste.
Oui. Ah oui, mais non, mais voilà. Du point de vue musulman. Non, mais oui, mais d'accord. Mais du point de vue musulman, même vous, nous tous, nous sommes musulmans. C'est la religion que Dieu met dans la nature humaine. C'est la religion de l'homme qui est appropriée à sa nature. Alors, si quelqu'un est juif, musulman, bouddhiste ou autre, juif, chrétien, bouddhiste ou autre, ça veut dire qu'il a été détourné de son islam natif. Vous voyez ? Et alors, bien sûr, il peut y revenir. Oui, mais attendez, pardon. Si, il peut y revenir en reconnaissant qu'il s'est trompé. Et en disant la profession de foi musulmane devant deux témoins. À ce moment-là, ben, il assume l'identité religieuse que Dieu lui a donnée parce qu'il est né musulman. Voyez, les musulmans disent que ceux qui ne se reconnaissent pas musulmans ont été détournés de leur religion, je ne dis pas naturelle, hein, c'est leur religion de nature plutôt. Les religions naturelles, c'est les religions qu'on trouve notamment en Afrique subsaharienne, avec l'animisme, hein, vous savez, des traditions, c'est du paganisme. Je n'ai pas du tout donné un sens péjoratif à paganisme, c'est comme ça, hein, le culte des morts, par exemple. Ou, voilà. Alors, c'est ce qu'on appelle les religions naturelles. L'islam, ce n'est pas une religion naturelle, mais c'est la religion de la nature de l'homme, appropriée à sa nature, donc, que Dieu a mis dans sa nature, que Dieu, depuis toute éternité, a décidé que c'était sa religion. Donc si on a affaire à un chrétien, eh bien c'est que ce chrétien, il a été détourné de sa religion par son éducation, par diverses influences, si vous voulez. Donc il faut tout faire pour l'amener à se reconnaître musulman. Voyez ? Donc le fait que des chrétiens soient accusés d'être associationnistes, ça n'empêche pas que les musulmans se croient du devoir d'amener à l'islam le plus grand nombre, y compris les associationnistes. Alors une fois que celui qui est associationniste se sera reconnu musulman, il ne sera plus associationniste, puisqu'il professera le dogme de l'unicité divine. Vous voyez ? C'est pas clair, ça ?
Même s'il a été avant,
oui.
Logiquement, là, d'un point de vue chrétien, en rentrant dans l'islam, si on a été associationniste, on va finir...
Pardon ?
Il n'est
pas pardonnable, l'associationnisme, si on persiste dans cette voie. Vous voyez ? Irrémissible, oui. Mais non, c'est pas contradictoire. Du moment où un associationniste renonce à l'associationnisme, il n'est plus dans le péché, du point de vue coranique, bien sûr. C'est pas clair, ça ? Alors à vous. Oui ? Vous pouvez parler un petit peu plus fort ? Oui.
La barbe, c'est des vertus qui nous parlent comme un acte
religieux, oui.
C'est comme l'interdiction du cochon.
Oui, manger du porc.
Apparemment, aussi, c'est un acte religieux, mais je pense avoir entendu dire qu'à la base, c'était dans ces pays-là, mais c'était une viande qui.
Non hygiénique, c'est ça ? Oui. Oui. Non, c'est pas ça. Non. C'est que, en fait, là, on est avec l'interdiction de manger de la viande de porc, on est en présence d'un emprunt au judaïsme. Hein, puisque les juifs ne mangent pas de porc, ils n'en mangeaient pas. On est en train de lire les livres des martyrs tous les jours à la messe, hein, les martyrs d'Israël. Vous avez entendu, c'était hier, je crois, hein, oui. L'islam a repris des interdits alimentaires, mais sans leur donner de signification, comme pour la circoncision. Sauf que le Coran dit que le cochon est un animal impur. Mais impur pourquoi ? Ça n'a rien à voir avec l'hygiène, puisque si vous allez au Proche-Orient, en Égypte notamment, eh bien les chrétiens mangent du porc. Enfin, ils ont mangé du porc pendant longtemps. Maintenant, vous vous rappelez peut-être qu'il y a 2 ans, les autorités musulmanes d'Égypte, sous prétexte que le porc aurait été coupable d'amener la fièvre, je ne sais plus quoi, H1N1, on a supprimé tous les porcs en Égypte. Et donc, on a ruiné des quantités incroyables de familles chrétiennes. C'est des Coptes qui élevaient les porcs, et c'était très utile à la société en plus, parce que ce sont des Coptes qui, comme il n'y a pas de ramassage des ordures organisé au Caire, 20 millions d'habitants, vous savez, hein, eh bien, c'est les Coptes qui vont chaque matin, avec des carrioles, ramasser les ordures, de toutes sortes d'ordures. Après, je les ai vus dans leur quartier, ils trient, ils font le tri de tout, les cartons, les bouteilles, les déchets organiques, alimentaires. Et donc, tout ça est recyclé et revendu, c'est comme ça qu'ils vivent. Et les déchets organiques servent à nourrir les porcs. Vous voyez, et alors les porcs après, bon, sont élevés, sont tués et sont ensuite vendus au restaurant où, fréquentés par les touristes occidentaux. Voyez, alors donc il y a eu cet abattage général d'une quantité incroyable de porcs, avec une cruauté encore en plus incroyable. On avait des comment ça s'appelle, des, vous savez, les engins de travaux publics là, les pelleteuses, qui allaient, qui prenaient les porcs dedans et puis qui les mettaient dans des fosses, et où on jetait ensuite de la chaux vive. Oui. Même des musulmans égyptiens. J'ai tout un dossier là sur la question. Des musulmans égyptiens ont protesté contre ça, surtout que l'Organisation mondiale de la santé a assuré que le porc n'était pas le vecteur de cette fièvre H1N1. Ça a été donc voilà. Mais les autorités égyptiennes ont pris ce prétexte en disant ben voilà. Alors c'est pour dire que ça n'a rien à voir avec l'hygiène. Voyez, c'est un simple emprunt au judaïsme. L'islam a emprunté aussi au judaïsme les notions de pureté et d'impureté légale. Ça, c'est très important.